Les organisateurs de cette retraite ont jugé utile et même nécessaire de parler de la définition de l'encouragement avant de parler de comment en faire dans le milieu chrétien. Et c'est pour ça que je suis là ce matin. Je vais essayer de parler sur ce sujet, d'expliquer un peu comment je vois en tout cas cette question de l'encouragement et de donner peut-être quelques principes qui peuvent nous aider dans le comment. Donc on va voir le quoi, je vais essayer de voir le quoi avec vous, et les autres vont me présenter le comment. C'est évidemment vrai qu'on va se dire des choses que les autres ont dit, ou on va dire des choses que les autres vont dire, mais comme on en parlait ce matin au petit déjeuner, ce n'est pas une mauvaise chose de se répéter, surtout si le sujet est un sujet important, et nous croyons que c'est un sujet important. Je commence par le dictionnaire, toujours dans ces cas-là. Et le dictionnaire dit que encourager veut dire inspirer du courage. C'est évident, mais on n'y pense pas quand on voit encourager. Inspirer du courage ou de l'assurance à quelqu'un. Animer, réconforter, stimuler, aider, soutenir. Il est important de remarquer dès le début que nous avons tous besoin d'être encouragés. Tous, sans exception, nous avons besoin d'être encouragés. Il y a un autre besoin que nous avons dans l'Église, c'est le besoin, je dis bien le besoin, d'encourager aussi. Autant nous avons besoin d'être encouragés, ceux dont nous nous rendons bien compte, autant nous avons besoin d'encourager les autres, ceux dont nous nous rendons moins bien compte. Il faut quand même qu'on établisse un principe, une clé de l'encouragement, qui me semble important. Il faut chercher plutôt à encourager qu'à être encouragé. Nous avons besoin d'être encouragés. Nous avons besoin, autant besoin, d'encourager dans l'Église si nous voulons grandir dans la foi. Jésus a bien dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça peut s'appliquer aux encouragements comme à toute autre chose. Il a été dit aussi dans l'Évangile de Matthieu 7, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. Et même, j'ai pas prononcé le premier mot de ce verset, Jésus dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si je veux être encouragé, eh bien, je dois encourager les autres. Ça fait partie de cette règle d'or, comme on dit. 1 Corinthiens 12, 25, que les membres de l'Église aient soin les uns des autres. Que les membres de l'Église s'encouragent, encouragent les uns les autres. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Que chacun de vous, au lieu de considérer qu'il doit être toujours encouragé, encourage les autres. En Corinthiens 13, 5, l'amour ne cherche pas son intérêt ou son propre intérêt. L'amour encourage les autres. Les gens qui ne cherchent qu'à être encouragés, j'espère ne pas être trop dur en disant, il y en a trop dans l'Église. Et les gens qui cherchent à encourager les autres, il n'y en a pas assez. N'importe qui peut dire ce qui ne va pas dans l'Église. N'importe qui, c'est facile, parce que c'est évident pour tout le monde ce qui ne marche pas. Et n'importe qui peut faire la liste de ce qui ne va pas et s'en faire une raison pour ne rien faire et être découragé. Ça, c'est facile. Mais il est plus difficile, et c'est là que Dieu nous lance le défi. Il est plus difficile, même, tout en voyant ce qui ne va pas dans l'Église, de se dire, eh bien, je pense que je peux faire quelque chose. Je ne vois pas comment exactement, je ne vois pas la solution, mais je vois le problème, je vois une situation difficile, et je vais m'y mettre pour en trouver la solution, avec l'aide de Dieu et mes frères et mes sœurs. Vous savez, quand Israël est sorti d'Égypte, il a tout de suite commencé à murmurer, tout de suite. Et surtout quand le pharaon a lancé ses chars à la poursuite d'Israël. Et donc, quand Israël en a eu la nouvelle, il a commencé à dire à Moïse, tu nous as sorti d'Égypte pour mourir dans le désert, il valait mieux rester là. Et Moïse rapporte ce murmure à Dieu, qui lui dit, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Dernièrement, on parle beaucoup de de comment affronter des situations difficiles, Jacques Jones nous est venu de Nantes pour nous dire que la clé de la prière, il n'y en a pas vraiment de clé magique, la clé de la prière, c'est de prier. La clé du découragement, c'est d'aller de l'avant. C'est de se dire, je suis peut-être un peu découragé, mais je vais quand même continuer, je vais quand même avancer, je vais quand même encourager les autres. Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux gens et qu'ils avancent, et qu'ils marchent, qu'ils se mettent en marche. Ce dont nous avons besoin, donc, dans l'Église, c'est des encourageurs, des gens qui se disent, oh, je vois qu'il y a un problème, mais je vais trouver la solution, moi, avec l'aide de Dieu et des autres. Qui se souvient de Shamua, Shaphat, Yigal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setour, Nabi, Geuel? Mais si je vous donne les deux autres dans la liste, vous connaissez. Vous savez pourquoi on ne se souvient pas des 10 premiers? Josué, Caleb. Vous vous souvenez de cette histoire très importante dans l'histoire d'Israël? Dieu, Moïse envoie 12 espions dans les pays promis. Ils reviennent. Ils ont fait beaucoup d'expériences pendant les 40 jours de leur espionnage. Et il y en a 10 de ces 12 qui disent, impossible, nous ne pouvons rien. Ils sont trop grands, les villes sont fortifiées, etc., etc. Impossible. C'était des décourageurs. Seulement, il y avait Josué et Caleb qui disaient, ah ben oui, on peut le faire. Possible. Oui, c'est possible. Ça vous rappelle quelque chose? C'est possible. Avec Dieu, l'Éternel est avec nous. Ne craignons pas. Nous pouvons prendre le pays. Josué et Caleb, c'était des encourageurs. Les 10 autres, c'était des décourageurs. On se souvient de Josué et de Caleb. Et les 10 autres, on les a oubliés. À juste titre. Seulement, Josué et Caleb étaient dans la minorité. Ils ont pris un gros risque. On va parler des risques tout à l'heure. Mais ils étaient que deux. Il y avait 10 qui disaient non, pas possible. Et il y avait 2 qui disaient oui, allons-y. Et Josué et Caleb, et Moïse d'ailleurs, et Aaron, ont failli se faire lapider sur le champ. Parce qu'ils voulaient continuer. Il y a quand même certains risques à être un encourageur. Mais Dieu les a récompensés. Josué et Caleb ont vu la terre promise. Les 10 autres, Shamua, Shaphat et les autres, et sont morts dans le désert. Avec toute la première génération qui nous a cru que ce n'était pas possible. Ceux qui y ont cru sont allés voir le pays promis. Dieu les a récompensés. Ceux qui ont dit c'est pas possible ont péri dans le désert. Mais la question reste posée. Je n'ai pas encore répondu à la question, qu'est-ce que c'est que l'encouragement? Alors je vais essayer de délimiter ça en 3 points. Encourager, c'est aimer. Encourager, c'est avoir un but. Et encourager, c'est prendre des risques. Aimer, avoir un but et prendre des risques. Pour encourager, premièrement, il faut aimer. Il faut savoir aimer. Il faut être une personne qui aime. J'ai un petit mot sur le tableau d'affichage de chez nous, qui est dans la WC, c'est très pratique, qui dit, le devoir fait bien les choses, mais l'amour les fait magnifiquement. Le devoir fait bien les choses, mais l'amour les fait magnifiquement. Et qui faut-il aimer? Qui faut-il aimer pour encourager? Eh bien la personne que l'on veut encourager, évidemment, quelle question. Mais attention, seulement attention. Jésus nous a donné une certaine priorité que nous devons absolument respecter. Même dans ce domaine très important. Et peut-être surtout dans ce domaine. Le premier, le plus grand commandement, Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le second est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela est très important. Le monde a déjà éliminé Dieu en faveur de l'être humain. Soyons sûrs que la même chose n'arrive pas dans l'Église. La personne que nous voulons encourager doit être convaincue de deux choses, ou d'une chose en deux parties. Que nous qui voulons encourager, que nous aimions Dieu d'abord et avant tout. Et ensuite que nous aimions la personne, que nous voulons encourager. J'ai essayé d'illustrer. je dois être convaincu que la personne qui veut m'encourager aime Dieu d'abord. Pourquoi? Parce que si cette personne veut me donner courage en me donnant des conseils qu'elle ne suit pas elle-même, si cette personne veut me donner des conseils spirituels par lesquels je peux me rapprocher de Dieu, et je vois que cette personne elle-même ne respecte pas ses conseils, c'est pas de l'encouragement ça. Ça mène à la confusion. Si quelqu'un veut inspirer en moi une attitude spirituelle, qu'il ne montre pas, qu'il ne possède pas lui-même, et ça ne m'aide pas du tout. Je vois qu'il y a un décalage entre lui et Dieu, alors qu'il veut me rapprocher, moi, de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas encouragé dans ces situations-là. Et puis, pourquoi est-ce que je veux être absolument convaincu qu'il m'aime? C'est parce que la personne qui m'aime d'un amour sincère, humble, profond, je sais que cette personne m'aime, je sais que cette personne aime Dieu, cette personne peut me dire tout ce qu'elle pense. Elle peut me dire n'importe quoi, je suis prêt à l'accepter, même si ça fait mal. Parce que je suis sûr que ça vient d'un fond, non pas seulement d'amitié, mais d'amour. D'amour sincère, profond. Quelqu'un qui se met en souci pour moi peut me dire ce que je fais de mal, ou ce que je fais de bien. Et je prends bien la chose. Mais la personne qui m'aime ni Dieu ni moi tombe et me donne des encouragements. Ces encouragements tombent sur des oreilles grandes et sourdes. Encourager, c'est aimer. Et encourager, c'est avoir un but. Et quel but? Donner du courage, nous avons vu la définition, donner du courage, inspirer, donner de l'enthousiasme. Mais ce ne sont pas des buts. On ne donne pas courage pour donner courage. Le courage, c'est envie de quelque chose, n'est-ce pas? L'enthousiasme, c'est envie de quelque chose. L'inspiration, c'est envie de quelque chose. Alors le courage, ce n'est pas le but en soi. Donner courage vers un but, mais un autre but. Un but final et plus grand. Quel est ce but? Eh bien, ce but, c'est le bien-être spirituel de notre frère ou notre sœur. Quand nous encourageons quelqu'un, nous voulons que cette personne puisse, par notre encouragement, se rapproche de Dieu. Voilà le but de notre encouragement. Une meilleure relation entre l'encouragé et Dieu. Et non pas forcément une meilleure relation entre nous et la personne que nous encourageons. C'est un résultat, je pense. Ça viendra de soi. Mais ce n'est pas le but final. Nous n'encourageons pas quelqu'un afin d'établir une relation plus profonde entre cette personne et nous. Ça se fait, mais ce n'est pas le but. Pourquoi? Parce que si on fait de cela notre but, bien comme dans toute bonne chose, il y a danger de détournement à des fins peu louables. Nous n'entrons pas dans une relation d'encouragement avec quelqu'un afin de nous faire des disciples, afin de créer des dépendances, ou de pouvoir en toute franchise, comme on dit, dire tout ce que nous pensons de l'autre, en l'écrasant littéralement de nos paroles dures. Il faut que tout s'insère dans un contexte de relation avec Dieu, de rapprochement de Dieu, de recherche de la présence de Dieu. Et si on fait des choses pour nous-mêmes dans ces contextes-là, on fait du mal à la personne que nous voulons encourager. Dans le livre L'encouragement par Crabbe et Allender, ils disent ceci, page 46, le partage qui veut dire toute la gamme des relations humaines dans l'Église, le partage tel qu'il est communément compris, met en avant la sincérité émotionnelle sans la placer dans le cadre de notre engagement envers Dieu et envers le bien-être des autres. C'est un grave problème. Et puis à la page 50, le fondement de notre communion est la vie que nous partageons en Christ. Le fondement, c'est la vie que nous partageons en Christ et non pas comme but final, la vie que nous partageons entre nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être en train de dire, mais c'est évident, mais ce n'est pas toujours évident. Et il est facile, même sans le vouloir, de détourner la chose à des fins, comme j'ai dit, peu louables. Notre but n'est pas d'établir une hiérarchie dans laquelle nous encourageons les encouragés à ressembler à leurs encourageurs. Ce n'est pas ça le but. Nous encourageons les encouragés à ressembler à Dieu. Nous voulons les élever, et non pas les attirer vers nous. Ça se fera en même temps, mais surtout les élever vers Dieu, c'est ça l'idée. Et si tout le monde se mettent à élever les autres vers Dieu, tout le monde sera élevé vers Dieu et tout le monde sera approché tout le monde, vers tout le monde dans l'Église. Nous voulons nous encourager mutuellement vers une activité spirituelle, vers le parfait exemple de Jésus-Christ. Et puis troisièmement, encourager, c'est courir des risques, c'est prendre des risques. Pourquoi? Parce que encourager, c'est prendre une initiative. Et toute personne, dans tout domaine, qui prend une initiative, s'expose à des risques. Quels risques? Bon, le risque de se planter, de faire une erreur, de se tromper, d'être mal compris ou d'être critiqué. Je vous donne un exemple ou deux. Je me souviens, il y a longtemps, je suis allé à l'hôpital voir une amie, jeune mariée, et j'avais entendu parler vaguement qu'elle avait des problèmes d'estomac. Bon, je suis allé la voir le soir, parce que je ne pouvais pas aller le jour, et j'ai appris après qu'on m'a laissé entrer que parce qu'on pensait que j'étais mari. J'entre dans la chambre, et elle est assise sur une chaise, je suppose, enfin bon, elle est assise et couverte d'une couverture qui arrive jusque-là. Et je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à sentir une certaine odeur et entendre certains bruits. Elle m'a confié plus tard qu'elle a passé là un des moments les plus embarrassants de sa vie. Vous devinez ce qui se passait? Peut-être pas, c'est tant mieux. Et moi, quand je me suis rendu compte de ce qui se passait, je n'ai rien dit. On continuait à parler comme ça du temps et de tout, sauf de ce qui se passait. Et elle aussi, enfin bon, la conversation restait sur un certain niveau. Et elle ne voulait rien dire, ce que tous les deux, on savait. J'aurais pas dû être là. Elle aurait dû me dire de partir. Bon, je me suis planté dans cette situation. J'aurais dû me renseigner un peu plus avant de la voir. Mais on en vit bien aujourd'hui. Une autre histoire qui me vient en tête, et je l'ai entendue il y a longtemps, donc j'ai oublié certains détails, et peut-être que vous avez entendu parler de ça, parce que c'est une histoire vraie, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Vous pouvez peut-être me dire après si je me trompe là dans les détails, mais il s'agissait d'un jeune homme qui travaille dans une entreprise, je ne sais pas, d'assurance ou de quelque chose, et dont le patron avait l'habitude tous les ans, à la journée d'action de grâce, Thanksgiving, de donner à ses employés de bureau en tout cas, un cadeau, quelque chose. Cette année-là, il avait choisi de leur donner une dinde, à chacun dans le bureau, une dinde, dans une grosse boîte. Alors cet employé est parti du bureau dans le bus avec cette grosse boîte de dinde. Il n'avait pas gardé dedans, hein. Il allait l'ouvrir à la maison, parce qu'on mange de la dinde à ce moment-là aux États-Unis. Bon, dans le bus, il fait la connaissance d'un jeune homme qui pleure, qui dit... Je n'ai plus d'argent, j'ai plus de travail, tout le monde se moque de moi, tout le monde me fait des farces horribles. Je suis l'objet de plaisanteries du monde entier, tout le monde se moque de moi. Évidemment, ce jeune employé voudrait l'aider, il a sa boîte avec la dinde dedans. Il dit, tenez, j'ai reçu ça aujourd'hui, j'allais partager avec ma famille ce soir, je te la donne. Il y a une dinde dedans, une grosse, bien belle dinde qu'on mange à cette époque. Eh bien, vous avez deviné, le dernier matin, quand il rentre dans le bureau, tout le monde rigole et il se demande qu'est-ce qui se passe. Tu n'as pas vu, quoi? Ben, la dinde. Ben, c'était en plastique. Eh bien, il se dit, c'est bon. Je voulais aider ce jeune homme. Il y a un homme quelque part dans la ville qui m'en veut horriblement. Et moi qui voulais l'aider. Bon, on va se planter de temps en temps, on va faire les choses bien. On veut faire des choses bien et on fait des erreurs. Mais au moins, il a fait quelque chose. Je préfère quand même, devant Dieu, essayer de faire quelque chose de bien et me planter que de ne rien faire du tout. Je pense que vous êtes de mon avis. Une autre chose, je ne sais pas si ça s'insère très bien dans cette catégorie, mais je ne sais pas où le mettre ailleurs. J'aimerais nous encourager à considérer la possibilité de développer nos talents dans le domaine du compliment. Dans le domaine du compliment. Nous sommes très peu de gens qui complimentent. Nous sommes trop peu prêts à dire sincèrement et chaleureusement le bien que nous pensons des autres. Nous pensons du bien. Or, nous ne disons rien. Mais quand ça va mal, nous sommes toujours là pour dire ça ne va pas. Développons c'est un talent, enfin c'est un, c'est pas vraiment un don parce que ça peut s'apprendre, ou peut-être parce que c'est un don au début, mais je connais une chrétienne à Lyon qui est magnifique pour dire des choses encourageantes, pour faire des compliments sincères et qui viennent du fond de son cœur, et qui encouragent vraiment. Je pense que nous devons chercher à développer cette pratique dans nos assemblées. Je pense que c'est peut-être difficile de faire cela parce que nous avons trop tendance à critiquer. Il faudrait peut-être mettre à côté nos tendances à critiquer et chercher à être plus positif. Je voulais partager avec vous une petite liste de conseils que j'ai adapté un peu pour notre situation particulière. Ce qui concerne l'encouragement, les gens sont souvent déraisonnables, illogiques, égoïstes. Encourageons-les quand même. Les gens sont découragés par leurs propres fautes, leur propre imprudence, leurs propres péchés. Encourageons-les quand même. Si nous encourageons, quelqu'un nous accusera de motivation cachée. Encourageons quand même. Les gens que nous encourageons, nous rendront parfois le mal pour notre bien. Encourageons-les quand même. Les gens que nous encourageons, nous oublierons peut-être demain, tant pis, encourageons quand même. Encourager nous rendra vulnérables, et c'est vrai, encourageons quand même. Et finalement, les plus grands projets d'encouragement sont souvent torpillés et sabotés en un seul coup par les esprits les plus petits. Continuons quand même à encourager. La Bible dit, ne nous lassons pas de faire le bien. Pratiquons le bien envers tous, surtout envers les frères en la foi. Galates 6, 9 et 10. Résumons. Encourager, c'est inspirer du courage. Tous nous avons besoin d'encourager, d'encouragement, et tous nous avons besoin d'encourager. Cherchons plutôt à donner des encouragements qu'à en recevoir. Encourager, c'est aimer Dieu d'abord, notre prochain ensuite. Encourager, c'est avoir un but, le bien-être spirituel de celui que nous voulons encourager. Encourager, c'est courir des risques, même dangereux parfois, mais ça vaut la peine quand même de continuer. Un dernier mot. Quel professeur de lycée nous a laissé avec le plus d'inspiration, la plus d'inspiration? Est-ce que c'est le professeur qui a toujours dit « Non, mais ça va pas, vous êtes nul !» Jamais vous réussirez. Ou celui qui disait, ça va être dur, difficile, mais j'ai confiance en vous, je sais que vous réussirez. J'en ai deux. Les noms des premiers, je les ai oubliés. Les noms des autres, je me souviendrai toujours. Notre maître disait souvent à ses disciples, prenez courage. Eh bien, prenons courage. Et donnons du courage les uns aux autres, dans l'amour de Dieu. Amen.